France Culture.
À Voix Nue cette semaine, Sylvie Vartan s'entretient avec David Arthur. Aujourd'hui, quatrième volet, et si tu n'existais pas ? Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour, il faudrait t'inventer.
Qu'est-ce que vous chantez sous la douche ?
Figurez-vous que je ne chante pas sous la douche. Je ne chante jamais chez moi, sauf quand pour des répétitions ou dans un but tout à fait professionnel. Mais je ne chantonne pas, non.
Vous ne fredonnez pas ?
Non, jamais. C'est curieux ça. Non.
Vous déclamez des vers ?
Non plus.
Non plus ?
Non, non. Non, non.
Non, non. En revenant sur votre carrière artistique, vue par vous, quel regard vous posez sur toute votre carrière ?
Je dois dire que je suis riche de spectacles, d'émotions, d'aventures, de... tous les spectacles que j'ai faits sont tous des moments de bonheur et sont un petit peu comme des enfants parce que ils sont attachés des personnes évidemment, des moments de ma vie très particuliers et puis l'essence même du spectacle aussi, les chansons, les paroliers, les musiciens, le contexte dans lequel ils ont été faits. Je les ai très présents dans mon cœur et puis je les aime tous pour des raisons différentes. Ils m'ont tous laissé quelque chose. Je suis très riche de ce côté-là.
Alors, le premier concert mythique que vous avez donné, c'est celui de la Place de la Nation.
Oui, oui.
C'est 200 000 personnes, un attroupement faramineux.
Un océan de monde à perte de vue, avec des gens accrochés aux branches et tout. C'était fabuleux. Comme entrée en matière dans le métier, c'était fort.
C'était le 22 juin 62.
Oui, c'était fort.
Et c'était Daniel Philippaki qui avait lancé un appel comme ça sur les ondes d'Europe 1 en disant voilà. « Venez, on va faire un concert
oui, ».
Ils attendaient 50 000 personnes, je crois.
Oui, oui, c'était le cours de Vincennes était bondé.
Et vous êtes arrivé en quart de police.
Oui. Et après, de nouveau, quart de police pour le retour et hélico et tout ça.
Et vous pensiez à quoi pendant ce concert ?
Oh, je me disais que c'était extraordinaire, en fait. C'était une pensée pour ma surveillante générale du lycée Hélène Boucher qui se trouvait sur ce même cours de Vincennes. Et qui touchait mes jambes pour savoir si je portais des collants ou pas. Parce qu'on n'avait pas le droit aux collants. C'était un lycée de filles très strictes à l'époque. On portait des blouses avec notre nom écrit en rouge, brodé en rouge. Des blouses bises hein, de couleur comme ça, beige clair. Et donc c'était assez strict comme lycée. Et le fait de pouvoir chanter là-bas et de représenter une jeunesse... totalement débridé, ça me faisait beaucoup rire.
Quand on est en scène dans un spectacle, vous pouvez penser à la liste des courses de demain ou penser à des choses qui n'ont rien à voir avec le spectacle ?
Non,
ça vous êtes une concentration.
Ah oui, non, je suis tout à ce que je fais. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est tellement prenant, tellement envoûtant et que ça transporte ailleurs. On vibre au-dessus de...
Oui, c'est une forme de drogue.
Oui, tout à fait.
Vous êtes comment avant un concert, avant de rentrer sur scène ?
Fébrile.
Et une fois que le concert est terminé, où l'adrénaline est à son maximum ?
Ah, c'est bon, c'est un sentiment extraordinaire d'épuisement. En fait, j'aime m'épuiser, voilà. Et là, je suis vraiment épuisée émotionnellement, physiquement. Et c'est vraiment un état de bonheur, de tranquillité quelque part et de...
C'est un plaisir que vous prolongez avec la troupe en allant dîner ou...
Oui, c'est le moment de la journée qui est le plus gratifiant et le plus jouissif dans la mesure où j'ai le sentiment que je ne peux pas manger avant. Et c'est vrai que le repas du soir après le spectacle est toujours très relaxant et détendu. Et vraiment, on a l'impression que la nuit est à vous et que Il n'y a rien qui vous, puisse vous contraindre d'une manière ou d'une autre.
Alors, quand on feuillette votre nouveau livre Dans la lumière, qui est aux éditions Ixo, qui est rempli de photos, de souvenirs, de... Enfin, voilà,
ah oui,
vous ne mettez rien. Il y a
tous mes petits carnets qui m'ont servi.
Oui, parce
à
que
tout
vous,
ça.
Vous avez toute votre vie écrit. Vos,
ah, ça, ma vie sur
notez
scène.
Notez votre hein, vie sur scène. Oui, oui,
oui. J'ai mes carnets, oui, oui.
Donc, quand on regarde votre carrière en images dans ce livre, on est abasourdi en se disant que finalement...
Mais moi aussi, je suis abasourdi, honnêtement. Alors que j'ai vécu tout ça, mais c'est vrai que, bon, je n'y pense pas, en fait. Mais ils sont tous là, au fond de moi, au fond. Et quand je regarde et je feuillette le livre moi-même, je me dis, oh là là, mon Dieu, je suis fatiguée rien qu'à à le feuilleter.
Est-ce que vous avez eu des mauvais choix artistiques, vus par vous ?
Écoutez, non.
Vous parliez de cinéma dans les choix. Le cinéma, c'est un rendez-vous qui a été manqué pour
oui.
vous très longtemps.
Oui.
Enfin, c'est un rendez-vous que vous avez sublimé par la suite avec un magnifique film qui est L'Ange Noir. Mais ce qui m'intéresse pour revenir, c'est quand vous étiez toute jeune, vous aviez un agent qui était Johnny Stark, qui vous a fait rater trois rendez-vous quand même
majeurs
dans une carrière.
Oui.
Quels étaient
mais qui aurait décidé de ma vie différemment, en fait. Parce que longtemps, j'ai regretté ces rendez-vous manqués qui étaient, pour les citer, les Parapluies de Cherbourg, La Vie de Château, Pierrot le Fou.
Donc, trois grands metteurs en scène et
oui,
trois grands films.
Trois grands metteurs en scène, trois grands films qui auraient décidé de ma carrière, en fait. Parce que, de plus, c'est ce que je voulais faire au départ. C'était mon rêve d'enfant. Mais... après avoir chanté en Bulgarie en 90, et tout d'un coup, j'ai eu cette sorte de révélation en me disant que, au fond, chanter, c'était quelque chose de qui où on pouvait se sublimer, parce qu'au fond, c'est quelque chose de vivant et de très très fort comme émotion. Et je me serais privée de ça, parce qu'au cinéma, tout est calculé. Le moindre battement de paupière a une signification. Il faut être beaucoup plus mesuré, alors que la scène vous apprend à être démesuré, justement, à se dépasser. C'est quelque chose qui...
Vous avez cette démesure.
C'est beaucoup plus éclatant, oui. Puis cette grande liberté, parce qu'on est soi-même porté par ce que l'on fait. On ne vous dit pas, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Évidemment, on a sa propre interprétation, même au cinéma, et sa présence, et son look, évidemment. Mais en scène, on fait ce qu'on veut, au moment où on veut. Il n'y a pas d'écrit, je veux dire, à part évidemment une chorégraphie, il faut bien la suivre, être en accord avec tout le monde au même moment. Mais sinon, quand on interprète une chanson, on ne l'interprète jamais de la même manière, de soir de suite. Et puis c'est quelque chose de vivant. On a un rapport très sensuel avec les gens, on peut les toucher. Du bout des yeux, du bout du cœur, on peut sentir ce qu'il vous renvoie également. Et puis au fil des années, à force de faire tant de scènes, je veux dire, tous ces sens s'affinent et on est beaucoup plus réceptif. Je crois qu'on devient extrêmement sensible au bout du compte. Et puis moi, c'est vrai que quand je suis dans un état comme ça, où je fébrile et où je dois chanter, avant, après, je suis beaucoup plus perceptive à tout ce qui m'entoure, aux gens, à tout ce qui se passe. J'ai comme une espèce de clairvoyance extraordinaire. C'est comme si on tournait un bouton et hop, je suis dans une autre dimension.
C'est ce qui s'est passé sur scène au Parc des Princes pour le 50e anniversaire de Johnny, quand vous chantez a cappella tes tendres années.
Oh, oui, ça c'était un moment.
Voilà,
tous ces moments-là, je ne les aurais pas connus. Je n'aurais pas connu la Bulgarie, je n'aurais pas connu Las Vegas, je n'aurais pas connu tous ces moments partagés avec des gens que l'on sent vraiment vivants et qui vous renvoient plein de choses. Et ce n'est pas aussi brutal. Le cinéma, c'est plus composé, c'est beaucoup plus introverti
C'est-à-dire que le théâtre vous aurait convenu, mais pas le cinéma.
Si, le cinéma me convient tout à fait. J'aimerais toujours en faire et ça me plairait beaucoup. Mais c'est autre chose. Je dirais qu'on est beaucoup plus proche des gens quand on chante que quand on est acteur.
Et vous avez pensé au théâtre ?
J'ai pensé au théâtre. Oui, oui, j'avais envie de beaucoup de faire du théâtre. Et peut-être j'en ferai un jour. Mais le fait de... Comme je ne suis pas quelqu'un qui délègue, j'aurais peur de l'autre, en fait, je crois. Au cinéma, on peut recommencer, on peut se reprendre. Au théâtre, on ne peut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai des absences parfois sur scène. Mais c'est moi qui suis en danger, je me repêche. Mais que fait-on?
Il y a un souffleur.
Ah oui, non, je ne sais pas. Il y en a toujours.
Il y en a toujours dans la coulisse. Oh là, il n'est plus devant dans sa petite boîte.
Ça doit être très, très perturbant, sûrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est assez angoissant.
Bon, mais on va se donner rendez-vous dans les années à venir au théâtre.
Peut-être, peut-être, peut-être.
Vous parliez de Las Vegas. Je suppose que vous en avez rêvé de ce show à Las Vegas.
Mais pas forcément à Las Vegas, mais aux États-Unis, oui. Parce que c'était le pays de mes rêves artistiques, je dirais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris là-bas, même sans m'en rendre compte, d'ailleurs.
Oui, parce que vos chorégraphes ont toujours été américains.
Oui, il s'est trouvé qu'ils étaient américains.
Vos
ils ont commencé
aussi.
Par oui, jusqu'à un certain moment. Parce qu'en France, ça ne se pratiquait pas. Je ne trouvais jamais... maintenant, on trouve bien évidemment, mais à l'époque, quand j'ai commencé dans les années 60, enfin à la fin des années 60, où j'ai fait mon premier spectacle à l'Olympia en vedette, on ne trouvait pas de danseurs qui étaient éclectiques au point de pouvoir danser dans le style proprement dit jazz, dans un style très black américain et en même temps faire des claquettes, en même temps chanter, en même temps... Il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, l'école du showbiz, eh bien, c'est tout. C'est jouer la comédie, c'est danser, c'est chanter, c'est faire du patin roulette.
Oui, enfin, parce que vous avez été la première à passer du concert, du spectacle,
voilà,
au show.
Je faisais les concerts au départ,
vous faisiez des concerts et vous avez importé le show à l'américaine.
Voilà, voilà. C'était très difficile de trouver et des musiciens qui jouaient dans ce style-là, ils étaient tous anglo-saxons. Pour ceux qui étaient les plus pointus, évidemment. Maintenant, évidemment, le monde s'est rétréci et puis il y a la mondialisation. On n'a plus ce genre de problème. Mais si on reporte tout ça à cette époque, c'est vrai que c'était très spécialisé. Et tout ce qui était spécialisé venait pour moi d'Amérique. Tout ce qui était bon, tout ce qui était professionnel, extrêmement professionnel, ça venait de là-bas. Et c'est vrai que je m'y suis fait des amis. Et puis,
L'amour est venu des États-Unis.
Ah ben l'amour, oui, mais il est venu
par le biais du Japon.
Oui, oui. Mais, voilà,
et de l'Italie.
Et de l'Italie, bien sûr. Ben, ça a une grande partie d'Italie.
Comment vous avez rencontré Tony Scotti? Votre mari?
Mon mari, je l'ai rencontré à Tokyo, pendant le
festival
de musique de Tokyo. International de musique était un événement extraordinaire qui avait lieu chaque année. Et j'étais donc jurée dans ce festival. Et c'est là que j'ai rencontré Tony, qui était lui-même le chef du panel américain, des jurés américains.
Ça a été comme une évidence, cette rencontre?
Pour moi, ça l'a été immédiatement, oui. C'est ce qui ne m'était jamais arrivé, d'ailleurs. C'était, parce que je n'étais pas le style coup de foudre. Évidemment, on est tous, réceptifs à quelqu'un ou pas. Mais de là à avoir comme un coup de foudre, c'est très rare quand même. Ça arrive peut-être qu'une fois. Moi, ça m'est arrivé une fois.
Et lui, ça lui arrive aussi, puisqu'il a tout abandonné pour vous.
Lui, oui, d'une certaine manière... Oui, ça a pris, disons, un peu plus de temps, mais c'était tout à son honneur, je dois dire.
Oui, mais dans la conjoncture américaine et dans les lois américaines, comme il était marié, il a vraiment tout recommencé à zéro.
À zéro, oui, oui. Il est parti avec sa valise, oui. Ça, c'est de l'amour, non?
Ah, c'est de l'amour.
bien sûr. Non.
Mais y a, c'est assez amusant parce que chez les Vartan, si on reprend votre grand-père... avec votre grand-mère, votre père avec votre mère, il y a toujours l'abandon.
Des valises.
Il y a toujours des valises et il y a toujours l'abandon de l'un pour l'amour de l'autre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Puisque votre maman était hongroise et votre grand-père avait refusé que votre père bulgare puisse épouser une hongroise.
Oui, oui.
Donc tout ça est une histoire qui se répète.
Oui, mais l'amour est plus fort que tout, Dieu merci, oui, oui.
Alors, Tony Scotti vous amène... une chose, il vous permet de ne plus être seul aussi bien sentimentalement que professionnellement. C'est-à-dire qu'il vous amène une contrebalance. Parce que vous avez,
parce que moi, j'étais confrontée au problème suivant, c'est que j'étais quelqu'un de connu. C'était très difficile de trouver. Pour moi, j'avais d'ailleurs rayé ça de tout ce qui pouvait m'arriver par la suite et de mes rêves. Disons que j'étais assez fataliste et je me disais qu'au fond, ce serait bien impossible pour moi et peu probable de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse m'entendre, parce que de par ma notoriété, justement, les gens qui m'intéressaient, je ne les intéressais pas forcément, ou je ne les intéresserais pas forcément.
Vous leur faisiez peur, peut-être.
Peut-être, oui. Ou puis alors, non, je n'avais pas du tout envie de...
On est très seul en haut de la pyramide.
Oui. Où on se l'imagine, en tous les cas, où on se fait soi-même sa propre... on construit soi-même ses propres murs et ses propres barricades. Hein. Ça, c'est possible aussi. Et on ne laisse pas grand monde y entrer, hein. Ça, inconsciemment. C'est une façon de se protéger aussi. Mais disons que, bon, j'avais mon fils, ma mère, mes amis, mes animaux, mon métier merveilleux. Et j'étais parfaitement heureuse. Je n'étais pas du tout prête à m'attacher à une autre vie, à devoir faire des efforts. Je me disais que la vie amoureuse ne doit pas être pleine d'efforts. Quand je vois les gens qui disent il faut travailler à l'amour, je trouve ça c'est effrayant.
Oui, c'est deux mots qui vont pas ensemble.
Pas du tout. On ne peut pas travailler à l'amour. C'est où ça existe ou ça n'existe pas. Voilà. Donc moi j'avais c'est vrai une idée très idéaliste de ce que devait être l'amour et de ce qu'il devait m'apporter. Donc bon, ça faisait pas partie du domaine de l'irréalisable. Donc, je ne prêtais même pas attention.
Vous êtes fusionnelle dans le travail, tous les
deux ? Je suis fusionnelle dans tout. Même quand je cuisine, toute seule dans ma cuisine. Je ne fais rien d'une façon tiède.
Quel est votre plat préféré ?
Je me fatigue. Hein ?
Quel est votre plat préféré ?
Oh là là, j'en ai pas. J'en ai tellement en même temps. J'aime tout.
Vous êtes collectionneuse de livres de cuisine, non ?
Ah oui, j'en ai des tonnes et des tonnes. J'en ai des merveilleux, je les adore. Ils me rassurent, en fait, quelque part. Moi, j'ai toujours grandi avec les femmes aux cuisines. J'ai vu ma mère, mes tantes, les amis de ma mère. Tout ça était toujours très joyeux. Les repas, la cuisine étaient liés à la légèreté, au bonheur de se retrouver, la convivialité. Et voilà, donc tout ce qui passe par la table, pour moi, source de bonheur. Et donc j'adore cuisiner, c'est ce qui ça me relaxe, ça me détend. Et j'adore les livres de cuisine, j'en ai toutes sortes. J'en ai sous forme de cartes, sous forme de livres, sous forme de classeurs, dans toutes les langues, spécifiques pour les gâteaux, pour les fêtes, Ah ben non, mais je n'ai même plus de place pour les ranger.
Et comme vous avez une famille nombreuse, vous avez beaucoup de bouches à nourrir.
Ah oui, mais le temps manque, voilà, c'est ça, on ne peut pas tout avoir.
Alors, Denis Scotti trouve, en vous proposant le show à Las Vegas et en vous emmenant à Las Vegas, d'une certaine manière, il trouve un slogan qui était quand même très gonflé pour
mais
l'époque.
Il est gonflé, et il est gonflé. C'est ça qui est bien.
Puisqu'il vous présente comme le plus beau cadeau que la France ait fait aux États-Unis depuis la Statue de la Liberté.
Oh, je dis non, c'est pas possible. Enfin, si. Et moralité, il avait tout. Enfin, il faut bien lui reconnaître une chose, c'est que c'est lui et son frère qui ont inventé la promotion indépendante aux États-Unis. C'est-à-dire, pour être un peu plus clair, dans les maisons de disques, il y a tout un staff, évidemment, qui s'occupe de choses et d'autres. Et eux, ils ont inventé le fait d'avoir une société qui s'occupait de la promotion des disques des artistes, en dehors de la maison de disques proprement dite. Donc, c'est comme ça qu'il s'est occupé des plus grands, de Streisand, de ABBA, de Foreigners, justement.
Et de vous, par la suite.
Et de moi, par la suite. Voilà, donc, c'est vraiment son forte. C'est son point fort. Il a fait tous les métiers, en plus. Il a été
acteur.
Il a fait ce film mythique qui s'appelait La Vallée des Poupées. Il était chanteur. Il a fait Vegas aussi. Il a chanté là-bas, dans un show. Puis,
il est
ensuite,
un pur produit artistique à l'américaine.
Exactement. Et il connaît tout parfaitement. Il est très musicien. Et c'est vrai que j'ai trouvé en lui vraiment quelqu'un en qui j'ai une entière confiance et qui a une échelle de valeur extrêmement élevée. Et ce n'est pas facile de le contenter, de lui plaire, en fait. Et donc, ça, c'est très important parce qu'il met la barre très haut. Et
moi, vous mettez la barre
haut. Oui, moi aussi, justement. Et c'est vrai que j'ai trouvé en lui un critique très, très dur, mais en même temps, c'est comme ça qu'on progresse. Et quand il dit que c'est bien, mais alors on est tout à fait tranquille, on peut penser que c'est bien. Et puis, je lui fais confiance, en quelque sorte, voilà.
Ah, ça, vous lui faites confiance, puisque vous êtes même retrouvé dans une robe à fourreau pailleté, en affiche, je ne vais pas dire dénudée.
Mais ça, je l'avais fait avant lui.
Hein. Oui, non, vous l'avez fait. Oui, mais vous
n'aviez pas. C'est pas lui qui m'a dicté ça.
Non, mais vous n'aviez pas créé des embouteillages et des accidents de voiture.
Ah non, ça, c'est lui, avec son slogan, oui, oui.
Parce que les gens regardaient cette affiche.
Oui, oui, oui. Tout ce qui est promotionnel, c'est lui. Et puis, artistiquement parlant aussi, sur le plan musical, aussi, on travaille maintenant à mon nouveau spectacle. Et c'est un bonheur d'avoir un interlocuteur qui comprend et voit les choses de la même manière.
Est-ce qu'il est arrivé à un point important par rapport à votre fils dans sa vie d'adolescence ?
Indéniablement. Indéniablement, parce que... mon fils avait besoin d'une image masculine à laquelle s'identifie. Il avait besoin d'une direction aussi, d'avoir quelqu'un qui le guide, qui lui donne confiance en lui. Parce qu'un garçon qui vit sans modèle masculin, c'est difficile, il manque quelque chose. C'est comme une fille qui n'a qu'un seul parent. C'est ça qui est le drame de tant d'enfants aujourd'hui qui ont... des familles recomposées, comme on dit entre parenthèses. C'est difficile à vivre, d'une part. Bon, des fois, parfois, c'est bien. Mais malgré tout, on a besoin des deux, quoi. On a besoin d'une image maternelle et paternelle. On a besoin de cet exemple. Sinon, on est un oiseau qui vole d'une façon bancale. On ne peut pas voler avec une aile. Donc, il est venu un peu tard, mais suffisamment tôt pour...
Oui, pour que David devienne
pour
chanteur.
Le guider, pour le guider et pour lui donner confiance en lui.
Oui, parce que votre fils voulait être musicien et n'avait jamais pensé à chanter.
Non. Et lui, ne l'a pas forcé, mais lui a montré d'une manière très, très adroite le chemin. Il lui a mis le pied à l'étrier. Il a conforté dans, justement, il chante très très bien. Il dit aujourd'hui... mon mari dit, c'est le meilleur chanteur de la famille, c'est vrai. Non, mais parce que moi, c'est vrai que je n'étais pas tellement à l'écoute de ça. Je savais que c'était un batteur né par la force des choses et qu'il était extrêmement doué musicalement. Mais comme tous les enfants qui viennent de parents connus, eh bien, c'est toujours très difficile parce que on pense toujours que c'est du piston ou en fait, c'est un gros handicap. C'est plus un handicap qu'autre chose.
Ça a été dur pour David de se faire un prénom ? Vu par vous.
Moi, je crois que c'est toujours...
On lui a fait payer certaines choses ou pas ?
Payer, je ne sais pas, c'est peut-être un grand mot, hein, payer. Mais non, je pense qu'il il existe en tant qu'artiste lui-même. Et puis, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre. Hein, mais je crois que c'est vrai que Tony est venu à un moment clé de sa vie. Parce que quand on est adolescent, c'est vrai qu'en plus, il avait une vie, par la force des choses, il était très protégé. Je le protégeais beaucoup parce que comme je suis une angoissée, évidemment, et que bon, c'est vrai que la notoriété isolant, c'est vrai qu'il lui aussi évoluait en tant que... dans un milieu très familier, d'amis, toujours les mêmes, et on ne sortait pas beaucoup en dehors de ce cercle. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'idéal pour apprendre à vivre, à avoir des expériences. C'est vrai, il faut se frotter à la vraie vie quelque part. Et donc c'est vrai que d'être surprotégé, enfin après il s'est débrouillé lui-même très, très bien et très vite.
Merci beaucoup Sylvie Vartan.
Merci.
On se retrouve demain ?
Oui. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester. Sur un plateau d'argent, elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudras lui dire, tu n'as pas d'amour.
appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seul les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse. Rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les Alpes, il y a des rêves, des enfants au petit matin. Penche vers l'amour, il se penche comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange.
C'était À Voix Nue. Sylvie Vartan s'entretenait avec David Arthur. À la réalisation, Nathalie Triandafilides. Demain, dernier volet, un cœur polyglotte. Vous pouvez réécouter les émissions pendant une semaine sur le site www.franceculture.com.